Dans un livre de relations d'aide dont le titre comporte les mots suivants, changer vraiment, je pense que j'ai oublié le dernier terme, les auteurs utilisent des images en rapport avec les difficultés de la vie. Et une des images qu'ils utilisent, c'est la chaleur de la vie. C'est-à-dire que quand on a des épreuves, parfois ça devient chaud, tu sais, la situation se corse. Et ils utilisent cette expression pour parler de chaleur de la vie. Est-ce que c'est moi qui fais avancer le diapo ou c'est... Ah, la souris est ici. Bon, merci beaucoup. Ah, c'est bon, merci. Alors, dans le texte que nous allons lire ce matin, nous allons parler de la chaleur chez Saül. Saül a senti la soupe qui chauffait, là, tu sais. Et on va regarder un petit peu de quoi il est question. Dans le chapitre 13 de 1 Samuel, nous voyons que la situation se corse pour Saül parce que les ennemis l'entourent. Les ennemis le pressent. Plusieurs de ses soldats décident de l'abandonner. La situation devient vraiment intenable pour Saül. Et à l'occasion de cet épisode qui nous est décrit dans 1 Samuel chapitre 13, eh bien, Saül a péché contre l'Éternel. Et il a offert le sacrifice alors que Samuel lui avait demandé de l'attendre, vous vous souvenez? Et évidemment, l'excuse que Saül a donnée, c'était le suivant. Ben, écoute, il fallait qu'on aille à la guerre, il fallait qu'on aille à la guerre. La situation était tellement intense, il fallait faire quelque chose. Donc je me suis fait violence et puis j'ai offert le sacrifice. Évidemment, ce n'était pas la meilleure des excuses aux yeux de Samuel et aux yeux de Dieu. Le deuxième épisode dans lequel nous voyons encore cette chaleur, cette pression, une situation difficile dans la vie de Saül, eh bien nous la retrouvons, cette situation, au chapitre 15 de 1 Samuel. Et d'après les propos de Saül, Saül dit comme excuse pour ne pas avoir obéi à l'Éternel, il dit qu'il a eu peur du peuple. Alors, c'est probable qu'il ait eu peur du peuple, de la réaction de ses soldats, et qu'il n'ait pas osé se tenir debout face à son armée. Dans 1 Samuel au chapitre 15, verset 24, nous lisons ceci. Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. » Alors c'est vrai que le peuple, une armée, des soldats, ça peut nous mettre énormément de pression. Et en lisant ces chapitres, on va mettre l'accent aujourd'hui sur le chapitre 15, mais en lisant chapitre 13 et chapitre 15, nous pouvons nous poser la question quant à savoir quelle est cette chaleur dans notre vie là. Quelle est cette situation qui met de la pression? Qu'est-ce qui pourrait être une incitation à ne pas obéir au Seigneur? Qu'est-ce que nous pourrions utiliser comme excuse pour dire au Seigneur, ben ouais, j'ai pas nécessairement suivi ce que tu me demandais. Dans d'autres situations où la chaleur était aussi intense, d'autres personnages bibliques ont resté fidèles à Dieu. Récemment, j'ai prêché sur Ézéchias, un des derniers bons rois d'Israël, de Juda, qui a fait face à l'invasion des Babyloniens. Toutes les grandes villes de Juda avaient été prises. L'armée babylonienne avait mis le siège devant Jérusalem. La famine était intense. Et puis le chef de camp arrive et puis harangue toute la population de Jérusalem qui se trouvait sur les murailles en disant devant tout le monde, écoutez, là, tous les autres dieux des autres peuples n'ont pas pu les sauver de notre main. Pensez-vous que votre Dieu à vous va vous sauver de ma main? De toute manière, c'est l'Éternel qui m'envoie. C'est ce que l'ordre du camp, le chef du camp de Sennacherib a osé dire au peuple. Et le peuple d'Israël, ou les chefs disaient au chef du camp, là, ils disaient, ne parle pas en araméen, pas en hébreu, parce que tout le monde comprend. T'sais. Ben, le gars, il voulait que tout le monde comprenne. Parce qu'il dit, rendez-vous, puis je vous donnerai la vie sauve. Rendez-vous, vous aurez la vie sauve, et je vous amènerai en exil. Alors, la pression était immense, là, t'sais. Et par la suite, vous connaissez certainement l'histoire, lorsque Sennacherib envoie une lettre à Ézéchias, dans laquelle il lui dit, tu penses que le contretemps que j'ai avec le roi éthiopien, ça va changer la situation, je vais tout de même prendre Jérusalem, tu sais. Puis il dit, ton Dieu pourra rien faire. Et encore une fois, il se moquait de Dieu, et Ézéchias a pris la lettre du roi, est allé dans le temple, et puis il a lu la lettre. Et auparavant, lorsque le chef de camp avait prononcé son discours, il est allé voir le prophète Ésaïe. Mais dans les deux camps, la situation était intense. La chaleur était intense. Pourtant, Ézéchias a réagi tout à fait différemment de Saül dans le texte qui est devant nous. J'aimerais, avant de regarder le texte d'un peu plus près, j'aimerais situer le chapitre 15. Le chapitre 15 se trouve après la conclusion d'une section qui se trouve au chapitre 14 à partir des versets 47. Au chapitre 14, verset 47, il nous est dit ceci. Après que Saül eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, à Moab, aux enfants d'Ammon, à Édom, au roi de Tsoba et aux Philistins, et partout où il se tournait, il était vainqueur. Il manifesta sa force, battit Amalek, et délivra Israël de la main de ceux qui le pillaient. Les fils de Saül étaient Jonathan, Jishvi et Malkishua. Ces deux fils s'appelaient l'aîné Merab et la plus jeune Mical. Le nom de la femme de Saül était Arinoam, fille d'Arimatz. Le nom du chef de son armée était Abner, fils de Ner, oncle de Saül. Kis, père de Saül, et Ner, père d'Abner, étaient fils d'Abiel. Pendant toute la vie de Saül, il eut une guerre acharnée contre les Philistins, et dès que Saül apercevait quelque homme fort et vaillant, il le prenait à son service, il l'enrôlait comme soldat. Alors, le chapitre 15 vient après cette section qui nous parle des succès militaires de Saül, mais le chapitre 15 nous décrit une crise dans la vie de Saül qui n'a pas observé le commandement de l'Éternel, et cette crise sert de préparation à la venue de David. David qui va être choisi comme roi pour succéder à Saül, et c'est ce que le texte du chapitre 16 nous décrit, l'onction de David. Et l'onction de David nous est expliquée en partie par le récit que nous retrouvons au chapitre 15. Alors cet après-midi, je voudrais regarder avec vous trois éléments que nous retrouvons dans le passage. Le premier élément parle de dévouement par interdit. Qu'est-ce que c'est que le dévouement par interdit ? Alors, si nous lisons ce texte du chapitre 15 et l'ordre de l'Éternel, on pense peut-être qu'il est question de vengeance. On n'aime pas trop la vengeance. On dit aujourd'hui qu'il vaut mieux pardonner que de se venger, parce que le pardon, ça nous fait du bien. Ça, c'est la raison qu'on donne aujourd'hui. Donc on pardonne pour se faire du bien, tu sais. J'espère que le Seigneur il se fait beaucoup de bien alors s'il nous pardonne, tu sais. Mais c'est pas ce que la Bible dit, hein. La Bible nous dit que nous pardonnons pour le bien de l'offenseur. Bien sûr que ça peut nous faire du bien, mais nous faire du bien n'est pas la première raison. Alors on va regarder un petit peu ce problème de la vengeance. On va regarder aussi, au travers du dévouement par interdit, on va aussi regarder la désobéissance de Saül et sa repentance qui est superficielle. Il a beau admettre dans le verset 24 qu'il a péché parce qu'il avait peur du peuple, tu sais, sa repentance reste superficielle comme nous allons le voir. Donc nous allons regarder ensemble le problème de l'obéissance en rapport avec donc son comportement, et nous allons regarder aussi la parole de l'Éternel. C'est le troisième élément que nous retrouvons dans le passage, c'est la place de la parole de l'Éternel. L'Éternel va parler Et nous allons regarder ce que l'Éternel dit. Nous allons voir aussi quelle est la réponse de Saül face à ce que l'Éternel a dit. Alors donc, premier élément dans ce chapitre 15, c'est la question de la vengeance ou du dévouement par interdit. Alors on va lire ensemble à partir du verset 1er, chapitre 15. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. » C'est moi qui t'ai envoyé. Hein. Écoute donc ce que dit l'Éternel. L'Éternel a des prérogatives parce qu'il a choisi Saül. Il a des prérogatives sur nos vies parce qu'il nous a choisis. Et parce qu'il nous a choisis, la parole de Dieu nous encourage aussi à l'écouter. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. « Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et ânes. » C'est un ordre qui peut paraître extrêmement surprenant. C'est ce qu'on appelle dans la Bible le dévouement par interdit. C'est-à-dire que toute la ville, les ennemis, étaient entièrement massacrés. Ils étaient offerts à l'Éternel, le butin y compris. C'est-à-dire que l'armée ne gardait rien pour eux. Et souvent, le dévouement par interdit était l'expression du jugement de Dieu. Et nous avons de la difficulté avec un tel comportement. Hein. Cette description est très dure, mais nous avons une difficulté avec le jugement de Dieu parce que il est clair que le dévouement par interdit, c'est l'expression du jugement de Dieu. Et parfois, parce que nous avons du mal avec le jugement de Dieu, nous l'associons à la vengeance, c'est trop dur, c'est trop barbare. Mais parfois, ça nous conduit à minimiser ce que Dieu nous demande. Ce n'était pas le cas pour Saül, puisque lui semblait dire qu'il avait peur du peuple. T'sais. Mais c'est vrai que parfois, nous avons du mal à accepter le fait que Dieu juge, le fait que Dieu condamne, le fait que Dieu ne va pas sauver tout le monde. Nous aimerions tellement qu'il sauve tout le monde, nous avons du mal à accepter son jugement. Mais nous acceptons son jugement que si nous acceptons sa sainteté. Et nous acceptons ce jugement que si nous acceptons la gravité de notre péché face à son jugement. Donc ce n'est pas simplement une simple vengeance. En fait, pourquoi Dieu intervient ainsi? Parce que c'est une, si on emploie un mot controversé, une juste vengeance. Est-ce qu'on associe les deux mots en général? Pas souvent, tu sais. On dit la vengeance, c'est négatif. Hein? On va peut-être parler d'un juste jugement. Mais on pourrait aussi employer l'expression une juste vengeance. En fait, l'Éternel dit à Samuel, « Je me souviens ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à la sortie d'Égypte. » Donc quand le peuple est sorti d'Égypte, Amalek a attaqué le peuple en profitant de la faiblesse des personnes plus jeunes ou plus âgées, en attaquant le peuple en arrière, par l'arrière en quelque sorte, et il n'est pas allé non plus de la main morte. Si nous lisons dans Deutéronome au chapitre 25, nous avons une description de ce que Amalek, pas le Amalek dont il est question dans 1 Samuel 15, mais l'Amalek qui régnait à l'époque de la sortie d'Égypte. Donc, Deutéronome chapitre 25, au verset 17 à 19. Verset 17. Jugement futur d'Amalek. Ça, c'est le titre que la Bible de Second, la version de Genève, donne. Jugement futur d'Amalek. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par en arrière, sur tous ceux qui se traînaient, les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie point. Ça, c'est le jugement qui était prononcé sur Amalek bien des années avant que le peuple n'entre en pays promis. Et c'était le temps maintenant pour Dieu d'accomplir ce jugement qui avait été prononcé donc des années avant. Amalek n'a pas changé. Si nous regardons le texte qui est devant nous, Amalek donc n'a pas changé. Regardez au verset 18 de 1 Samuel 15, verset 18. Enfin, l'ordre n'a pas changé. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Donc voilà l'ordre de l'Éternel. Alors, on va le lire dans quelques instants, mais Saül n'a pas mis à mort le roi Amalécite. Et il a fallu que Samuel lui-même intervienne pour passer le jugement sur Amalek, sur Agag, roi d'Amalek. Et ce n'était pas un gag. Même si au verset 32 nous est dit qu'Agag il s'avance d'un air joyeux, il disait certainement l'amertume de la mort est passée. Ben, Saül ne l'avait pas mis à mort, il s'est dit ah, j'ai échappé, tu sais, il est tout content. Samuel, verset 33, dit de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Vous voyez, même Agag, le roi d'Amalek, était aussi un homme qui avait commis des meurtres. Donc lui aussi, en tant qu'individu, était passible du jugement de Dieu, même si son peuple, depuis l'épisode à la sortie d'Égypte où ils avaient attaqué le peuple d'Israël qui était en marche, ils attaquaient les plus faibles, même si le peuple des Amalécites, à l'époque, était déjà passible du jugement. Donc Amalek lui-même n'a pas changé. Quel est le sens de ce dévouement par interdit? En fait, il ne s'agit pas d'une vengeance divine comme nous, on pourrait voir la vengeance humaine. C'est que Dieu, lorsqu'il intervient et qu'il juge, souvent c'est pour délivrer son peuple. Délivrer son peuple de ses ennemis. Manifester sa propre justice. D'ailleurs, lorsque nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons que le jour de la grâce est aussi associé au jour de la vengeance. Et si le mot vengeance est employé en rapport avec la justice que Dieu fait, c'est aussi pour montrer l'importance du jugement que Dieu va passer sur l'humanité. Regardez dans l'Apocalypse au chapitre 6, versets 9 à 10. Verset 9. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Donc des hommes et des femmes ont été mis à mort parce qu'ils étaient fidèles disciples du Christ, à cause de leur témoignage. Et le verset 10 nous dit, ces âmes qui avaient été immolées crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? L'Apocalypse nous présente une sainte vengeance de Dieu. Là, j'ose pas trop bouger parce que une sainte vengeance de Dieu qui est associée au jugement de Dieu. Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger? Donc c'était le temps du jugement pour Amalek. C'était le temps de la vengeance divine pour Amalek. Et la vengeance divine est toujours une sainte vengeance. Vous savez que l'évangile même présente le jour de la grâce. Mais dans la prédication de l'Évangile, il y a aussi cette journée de jugement, notamment du jugement final, auquel l'humanité va être soumise au retour de Jésus-Christ. Alors, regardons maintenant le problème de l'obéissance, le problème de l'obéissance de Saül. En fait, Saül a du succès. C'est un gars qui part à la guerre, nous dit la fin du chapitre 14, il se bat contre tout le monde, tous les peuples aux alentours, et il obtient la victoire. Donc c'est extraordinaire, on a un roi qui est victorieux. T'sais. Mais le succès d'un roi ne dépend pas seulement de ses victoires à la guerre. Le succès d'un roi dépend aussi de son obéissance vis-à-vis de Dieu. Donc, on revient au chapitre 15 du chapitre de Samuel, de 1 Samuel, et nous allons continuer à lire à partir du verset 4. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. C'est quand même une armée assez considérable. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous et sortez du milieu d'Amalek afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël. » Et lorsqu'ils montèrent d'Égypte, et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Très bon comportement de Saül. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Ah oui, il passe le peuple au fil de l'épée, tu sais ? Ok. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Vous voyez, le verset 9 nous dit, c'est Saül et le peuple qui ont épargné Agag et une bonne partie du troupeau. Verset 10, l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül, et en vint lui dire, « Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. » C'est intéressant, le petit détail. Hein. Je vais ériger un monument à ma gloire. Tu sais. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Ouais, quelle salutation extraordinaire. Tu sais. « J'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles ?» Et ce mugissement de bœufs que j'entends ? Oh, Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous avons été bien obéissants, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel !» On dirait qu'il n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde théologique que Saül, que Samuel. « Et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel !» J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Voyez-vous l'astination de Saül, hein, pour se justifier et pour faire croire au prophète qu'il a véritablement obéi à l'Éternel. Verset 21, mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémices de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Vous voyez, dans notre raisonnement pour justifier notre désobéissance, voilà ce que nous faisons. Ah, mais on a pris des animaux pour les offrir en sacrifice. On compense au lieu d'obéir. On se dit, les sacrifices vont compenser à notre désobéissance. Puis le Seigneur, il va se calmer parce qu'on offre des sacrifices au lieu de l'obéir. Mais pour qui prenons-nous Dieu, tu sais, quand on agit de cette manière-là? Je pense qu'il avait fait une baguette magique. Hein. Parce qu'il est allé derrière, puis depuis qu'il est allé derrière, ça fait plus de bruit avec le micro. Là. Ce matin, à l'église de Jésus, j'ai enseigné sur les dons. Il y a peut-être un don. Verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Waouh ! Il te rejette aussi comme roi. On va lire la suite du passage dans quelques instants. Mais méditons pour l'instant sur la question du problème de l'obéissance. Dans ce texte, il y a un problème face à l'obéissance. Parce que notre ami Saül a du succès, il remporte la victoire contre les Amalécites, mais il pratique ce qu'on appelle une obéissance sélective. Et souvent, c'est un petit peu ce que nous faisons. Dans les versets 4 à 6, je vois que j'ai inscrit le verset 4 à 6, il est dit ceci. Ah oui, je l'ai lu tout à l'heure là. Il est dit que Saül donc obéit, il convoque le peuple, il va en guerre, il détruit les Amalécites. Donc en quelque sorte, il accomplit la justice que Dieu lui avait demandé d'accomplir. D'accord ? Mais, comme nous l'avons vu, il n'a pas complètement obéi à Dieu, puisqu'il a obtenu la victoire, mais il a fait des compromis. Le verset 7 à 9 nous le décrit. Nous décrit le compromis de Saül. Il prend vivant le roi d'Amalek, même s'il dévoue par interdit le peuple entier, mais il garde aussi une partie du troupeau, du tiaptel, les meilleures bêtes, il les garde pour lui. Donc, la victoire, oui, il l'obtient, oui, il obéit, il va à la guerre, mais cette obéissance est sélective, puisqu'il fait des compromis dans son obéissance. Et la conséquence de tout cela, c'est que Dieu va lui enlever le royaume. C'est intéressant parce que je crois que nous aussi, aujourd'hui, nous faisons des compromis dans notre obéissance à Dieu. Et on compense. T'sais. On compense en offrant des sacrifices à Dieu par notre temps, par notre service, par notre ministère. Mais d'autre côté, nous n'obéissons pas pleinement à Dieu. Tu sais, on a des choix à faire dans la vie. Hein. Et souvent, ces compromis se font dans le domaine de l'éthique, c'est-à-dire du comportement. Aujourd'hui, on parle beaucoup du comportement sexuel, de l'éthique sexuelle. Il y a énormément de compromis qui se font dans ce domaine au sein du peuple de Dieu. On dit que dans ce domaine, les chrétiens ne font aucune différence par rapport aux non-chrétiens. T'sais. C'est comme si on a adopté la pensée du monde. Et puis oui, on pense qu'on obéit à Dieu. Oui, on va à l'église, on sert. Oui, on donne de l'offrande. Oui, on exerce un ministère. T'sais. Et puis on se satisfait de ces gestes d'obéissance tout en en acceptant des compromis dans d'autres domaines de notre vie. Alors là, on donne l'exemple du domaine de l'éthique sexuelle, mais en ce qui concerne peut-être aussi la gestion de notre argent. Est-ce que nous gérons notre argent selon des principes bibliques ? Est-ce que nous obéissons à Dieu sur la manière de gérer notre argent ? Ou est-ce que nous dépensons notre argent comme le font tout le reste du monde, hein ? Comme si nous n'étions pas chrétiens, tu sais ? Est-ce que nous obéissons à Dieu et puis nous mettons notre confiance en lui au lieu d'essayer de trouver par nos propres moyens des solutions à nos problèmes ? Lorsque la situation devient très très chaude dans notre vie, lorsqu'on a des gros défis, est-ce que nous faisons confiance à Dieu ? Est-ce que nous obéissons à Dieu ? Ou est-ce que là encore, nous obéissons que dans certains contextes et d'une certaine manière, mais dans d'autres domaines, non, non. Nous faisons confiance en nos propres forces. Nous faisons confiance en nos propres ressources. Alors, Dieu va s'adresser à Samuel à partir du verset 11. Et Dieu dit à Samuel, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. » Dieu se repent. Est-ce que Dieu avait péché pour se repentir ? Non, c'est pas dans ce sens-là. En quelque sorte, Dieu regrette, tu sais, d'avoir choisi Saül. C'est ce qu'on appelle un anthropomorphisme, c'est-à-dire que Dieu utilise une expression utilisée pour l'être humain pour exprimer qu'il va changer par rapport à une certaine situation, par rapport à certains serviteurs, par exemple, par rapport au sort d'un peuple, par exemple. Donc, l'Éternel se repent d'avoir établi Saül pour roi, non pas parce qu'il a fait une erreur, l'Éternel ne fait pas d'erreur, mais l'Éternel va prononcer un jugement sur Saül suite à son péché. C'est beaucoup plus que c'est pas un échec au point de vue de Dieu, là. C'est beaucoup plus qu'un échec. C'est le plan de Dieu qui, en quelque sorte, d'un point de vue humain, s'ajuste à la situation. Je t'avais choisi comme roi, tu m'aurais suivi, tu aurais été fidèle, eh bien, j'aurais établi une dynastie pour toi, là, tu sais. Mais là, tu as été infidèle, mais le plan que j'avais pour toi, tu ne le connaîtras pas puisque tu as désobéi. Et le passage au verset 11 nous dit aussi que Samuel a réagi. Il s'est mis en colère. Il y a d'autres termes qui sont utilisés dans d'autres versions, mais Samuel fut irrité. Alors c'est un serviteur de Dieu, Samuel. Vous savez que ça arrive aux serviteurs de Dieu d'être irrité, de voir le comportement des chrétiens dans l'église, de voir les comportements de leurs propres paroissiens. Et souvent, c'est une lutte spirituelle qu'ils doivent mener quand ils sont déçus, quand ils sont en colère de voir certaines situations. Et tant que tu n'as pas réglé cette émotion dans ton cœur, tu ne peux pas continuer à servir le Seigneur dans la situation présente. Et là, c'était un rude combat pour Samuel. Il a crié à l'Éternel toute la nuit. « Ouais, mais tu sais, Éternel, tu m'as dit de leur choisir un roi, puis moi, je voulais pas qu'ils choisissent un roi. Puis tu m'as dit, ouais, mais c'est pas toi qui rejettes Samuel, c'est moi qui rejette, je vais leur choisir un roi. Tu sais. Mais Seigneur, pourquoi tu as choisi un roi ? Regarde la situation catastrophique avec Saül qui ne t'a pas obéi. Tu sais. Je m'imagine un peu, le texte ne dit pas là, j'imagine un peu la colère de Samuel et sa réaction face à cette situation. Et il a fallu qu'il accepte ce que Dieu lui a dit, il a fallu qu'il croie la souveraineté de Dieu, il a fallu qu'il croie que Dieu dirige toutes choses, même s'il a certainement été très déçu par le comportement du roi Saül. Face à la parole de Dieu qui a été délivrée à Saül, Saül va réagir. Alors regardons un petit peu la réaction de Saül face à la parole de Dieu. Verset 14, verset 19 et verset 22, Samuel pose trois questions. Les trois questions de Samuel. verset 13. Verset 13, non, verset 14. Samuel dit, « Qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends ?» Pensez-vous que Samuel ne savait pas ce qui se passait ? Est-ce qu'il avait besoin d'une réponse à sa question ? Il n'avait pas besoin de réponse à la question. Mais il a posé une question pour donner à Saül l'occasion de vraiment se repentir et d'admettre son péché. Et c'est la même chose lorsque Adam et Ève sont en péché. Dieu, il vient puis pose des questions, tu sais. Il savait, Dieu, ce qui s'était passé. Mais par ces questions, Dieu veut susciter notre repentance, tu sais. Mais au lieu de saisir la perche que Dieu nous donne, bien souvent, nous nous justifions dans notre désobéissance. Je connais quelqu'un qui est assez près de nous, là, qui vivait en concubinage avec un homme, qui s'est fait baptiser. Malheureusement, l'Église a accepté de la baptiser. Elle a baptisé cet homme aussi, tu sais. Je ne sais pas si l'homme était chrétien. On avait rencontré cette femme avant, mon collègue pasteur et moi. On lui avait parlé des directives de Dieu, tu sais, concernant le mariage mixte, par exemple, ou le fait d'être à côté, les convictions bibliques sur la valeur du mariage, etc. Mais vous savez, quand nous ne voulons pas accepter la volonté de Dieu, nous avons toutes les bonnes raisons du monde, toutes les bonnes excuses. Et Samuel veut susciter une repentance dans le cœur de Saül, mais Saül va trouver toutes sortes d'excuses, comme nous allons le voir en quelques instants. Regardez verset 19. Verset 19. « Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel ? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ?» Moi, si j'avais été peut-être à la place de Samuel, je serais allé voir Saül en disant « Saül, tu as désobéi et tu as gardé du butin pour toi-même. » C'est moi, je l'aurais accusé tout de suite, tu sais. Je ne sais pas vous comment vous auriez procédé, mais peut-être que vous auriez dit « On va lui dire les quatre vérités à Saül. » Tu sais, il n'y échappera pas là. Mais remarquez tout de même, après avoir passé une nuit irritée à plaider devant l'Éternel, Samuel fait quand même preuve de tact. Il laisse quand même l'occasion à Saül de pouvoir confesser son péché. Tu sais. Et ça, pour nous, c'est un bon exemple. Surtout lorsqu'on est choqué, blessé, en colère, suite à un comportement répréhensible de nos frères ou de nos sœurs ou de ceux qui sont proches de nous. Regardez au verset 22, troisième question de Samuel. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Il lui pose encore une question, tu sais. C'est la troisième fois, troisième question en quelque sorte que Samuel pose à Saül. Je trouve qu'il est bien patient, Samuel. Donc Saül, lui, va expliquer à Samuel ce qu'est l'obéissance selon Saül. C'est l'obéissance selon Saül, c'est pas tout à fait le même type d'obéissance selon Samuel. Le verset 13 nous dit ceci. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » C'est d'emblée, hein. Oh, il a dû voir venir le prophète Saül, là. Il s'est dit « Ouf, il va me faire des reproches lui là, tu sais. » Et puis déjà pour essayer de lui couper l'herbe sous les pieds, « Ah, oh, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Donc on voit tout de suite comment il réagit. Verset 19 et le verset 20. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Sa réponse aux questions montre l'endurcissement de son cœur. Tu sais, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Vous voyez cette obéissance qui n'en est pas une, ou cette obéissance qui est seulement une obéissance partielle, mais une obéissance partielle, c'est de la désobéissance. Versets 22 et 23. Regardez, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Saül, comme on a dit tout à l'heure, veut compenser à sa désobéissance par un acte religieux. Il n'y a rien de pire que ça. Essayer de gagner la faveur de Dieu par des actes religieux, pour faire en sorte que Dieu va peut-être passer par-dessus notre désobéissance. Non, une désobéissance est une désobéissance. Verset 23, regardez ce que dit le prophète, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Vous voyez, la conception de la désobéissance, de l'obéissance selon Saül, ça équivaut à de la divination, à de l'idolâtrie, nous dit ici le verset 23. Donc l'obéissance de Samuel, elle n'est pas tout à fait la même que celle de Saül. Regardons maintenant, en dernier élément, la repentance, on va la mettre entre guillemets là, la repentance de Saül, le problème de la repentance de Saül. Alors on a parlé un petit peu de, entre guillemets, de la repentance chez Dieu. Il n'y a pas de contradiction. Dieu essaye, en termes humains, de montrer que les choses vont changer. Dieu avait communiqué son plan à Saül, l'avait choisi comme roi, etc. Mais les choses vont changer à cause de la désobéissance du roi Saül. Verset 35b. Le verset 35b nous dit ceci. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Vous voyez encore cette façon humaine d'expliquer le changement que Dieu va opérer par ce jugement qu'il a passé sur la royauté de Saül. Verset 29. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Vous voyez, quand on dit que Dieu se repent, Dieu ne se repent pas comme un homme se repent. Quand on dit que Dieu se repent, ça veut dire que Dieu va passer un jugement et que la situation va changer. Mais quand on dit que Dieu se repent, c'est une façon pour montrer le changement que Dieu va opérer. Ça ne veut pas dire que Dieu se repent de la même manière qu'un homme doit se repentir à cause de son péché. Donc, Dieu certainement souffrait de la situation, d'une certaine manière. Il savait que le péché, c'est une offense à Dieu aussi. Donc, Dieu ne reste pas insensible à notre péché. Et Dieu n'est pas un yo-yo. Ce n'est pas quelqu'un que l'on peut manipuler comme nous voulons. Et c'est la raison pour laquelle Dieu prononce ses jugements, surtout lorsque notre obéissance est une obéissance élastique, vous savez. Chez Saül, regardons sa repentance. Regardons le jeu du jeu et du il. Regardez au verset 13. Le verset 13 nous dit ceci. Samuel se rendit auprès de l'Éternel et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Il n'avait pas en jeu, il est bien fier de son affaire. T'es. Quand ça fait son affaire, il va parler en jeu, Saül. Mais le jeu du propre juste, vous savez, le jeu de celui qui veut s'auto-justifier devant l'Éternel, c'est moi, j'accomplis la parole de l'Éternel. Moi, je sers l'Éternel. Moi, je suis irréprochable. C'est exactement ce que Saül est en train de dire. Le verset 20, il parle aussi en utilisant le même pronom personnel. Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, j'ai suivi le chemin, j'ai amené Agag, j'ai dévoué par interdit. » On est super bon pour justifier notre péché. On est excellent là-dedans. On n'a même pas besoin de prendre des cours. Ça vient naturellement là. Ça jaillit d'un cœur pécheur, ça. L'auto-justification. Au verset 15, il change de pronom personnel, donc il joue avec l'utilisation des pronoms personnels. Saül répondit à Samuel, quand il lui parle de tous ces mugissements qu'il entend, il dit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs. Vous vous rappelez Adam là ? C'est elle, la femme que tu m'as donnée, tu sais ? C'est à cause d'elle que j'ai... Toi tu t'es marié, fais attention. Hein. C'est à cause d'elle que j'ai péché, tu sais ? Ben si on a un problème, c'est à cause de eux. Parce que c'est eux qui les ont amenés de chez les Amalécites. Voyons donc. Quand le roi reçoit l'ordre de l'Éternel de vouer par interdit un peuple, il l'annonce à toute l'armée pour que toute l'armée puisse suivre les indications du roi. Donc soit Saül n'a rien annoncé du tout, ou soit Saül l'a annoncé, et quand il a vu que le peuple avait un petit peu de difficulté à suivre ses recommandations, au lieu d'insister, en tant que roi, il avait l'autorité, bien les laisser faire. Vous voyez, ils les ont amenés. Remarquez qu'au verset, la fin du verset 15, il nous dit « Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. » Il y a un petit emploi là, au pluriel, pas au singulier là. C'est pas « j'ai ». Il dit « Nous l'avons dévoué par interdit. » Voyez-vous, il joue avec les pronoms personnels là quand ça fait son affaire. Verset 21. « Le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs. » Le peuple a pris. Ils ont pris, encore une fois. Au verset 16, Samuel en a vu d'autres. Hein. Pas la première fois qu'il voit pleuvoir, hein, comme on dit. Regardez le verset 16. Samuel dit à Saül, arrête. Vous avez déjà dit à des enfants, arrête. Généralement, ils n'arrêtent pas quand vous dites arrête. Quand vous dites arrête un enfant, il faut lui dire arrête une deuxième fois ou une troisième fois, ou alors lui dire je te mets en conséquence si tu continues là, tu sais. Et même si Samuel, qui n'est pas dupe, dit à Saül arrête, il continue Saül dans les versets qui suivent, tu sais, à se justifier, à mettre la faute sur le peuple, etc. Tu sais. Mais Samuel refuse cette attitude. Et lorsque Samuel prononce le jugement sur Saül, en lui disant que l'Éternel a ôté la royauté, eh bien, à partir du verset 26, on lit ça, Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Finalement, Samuel prononce le jugement. Et face à cette situation, face à cette confrontation, Samuel, à trois reprises, va poser des gestes de repentance sans que ce soit de la vraie repentance. Regardez tout d'abord au verset 25 et 26. Verset 24. Alors, après que Samuel lui ait dit, écoute bien, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Hein. Et puis l'obéissance, la désobéissance est aussi coupable que la divination, au verset 23. La résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors, première réaction de Saül, au verset 25, au verset 24, Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, je n'ai pas obéi à tes paroles, je craignis le peuple, et j'ai écouté sa voix. » Alors, c'est les premières paroles de repentance de Saül. Et on pourrait se dire, ben au moins, chez Saül, il y a une certaine sensibilité à sa désobéissance. Mais vous savez que pour tester la vraie repentance de quelqu'un, il faut aller au-delà de ce qu'il dit. On a besoin de discernement parfois pour évaluer la repentance de quelqu'un. Et ce premier appel de Saül à l'indulgence ou à la repentance hein, est rejeté par Samuel dans les versets 25 et 26. Regardez le verset 25. « Je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. » Il veut que Samuel revienne avec lui. Et on va voir dans le reste du texte, il veut que Samuel revienne avec lui parce que Samuel est une source d'autorité pour lui devant sa propre armée, devant son propre peuple. Et il sait très bien que si le prophète l'abandonne, eh bien ça va affecter son autorité, ou ça risque d'affecter son autorité et sa légitimité. Donc sa repentance, c'est une repentance intéressée. Je ne me repens pas parce que je réalise vraiment que j'ai péché contre toi, Seigneur. Je ne me repens pas parce que je réalise que je t'ai offensé. Je me repens parce que j'y trouve un intérêt de me repentir. Alors au verset 26, Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » La sanction a été prononcée. L'Éternel ne reviendra pas là-dessus. Mais voilà qu'au verset 27, Saül insiste. Hein, et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Vous savez, les gens qui veulent vous forcer, là, les gens qui veulent vous imposer votre volonté, là, même quand vous quittez, vous courent après pour essayer de vous tenir, là, pour essayer de nouveau de faire en sorte de vous convaincre de ce qu'ils disent. Là, ils insistent. Ils insistent lourdement. Samuel se tourne pour s'en aller. Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchire. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus de toi la royauté d'Israël et la donne à un autre qui est meilleur que toi. Deuxième refus de Samuel face à cette soi-disant repentance. Verset 30, Saül dit encore, j'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple. Vous voyez ces intentions qui viennent à la surface là. Honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel ton Dieu. Vous voyez comment on négocie avec Dieu parfois là. Seigneur, je vais marcher avec toi si tu me donnes ça. Seigneur, si j'ai un intérêt à te suivre là, je vais te suivre. Mais te suivre par amour, te suivre par obéissance, ça c'est notre paire de manches. J'ai besoin de toi, Samuel. J'ai besoin que tu m'honores auprès des anciens, des leaders de mon peuple en présence d'Israël. Et si tu m'honores, ben, je vais adorer l'Éternel. Remarquez le verset 30. Ton Dieu. C'est plus son Dieu, là. Il dit pas j'adorerai l'Éternel, mon Dieu, parce que j'ai soif d'une communion avec mon Dieu. Ma désobéissance m'a fait perdre cette communion avec Dieu. Donc ma repentance, au travers de ma repentance, je veux retrouver cette communion avec mon Dieu. Mais non, c'est le Dieu de Samuel, ça. C'est... Troisième refus face aux appels de Saül. Conclusion. Ben, on va un petit peu boucler la boucle de ce texte. Les versets 1 à 3 nous ont présenté donc cette direction prophétique. Samuel a donné une direction prophétique en rapport avec le temps d'accomplir le jugement sur Amalek. Le jugement s'est accompli, c'est ce que nous voyons dans les versets 32 et 33, parce que Samuel a pris lui-même l'épée et a tué le roi Amalécite, parce que Saül ne l'avait même pas fait. Saül aurait pu dire, Seigneur, je me repens, on fait venir le roi et on passe le jugement. Mais non, il a fallu que ce soit Samuel qui passe le jugement. Et d'un point de vue prophétique, eh bien, l'éloignement de la royauté, l'enlèvement de la royauté, souligne cette séparation prophétique qui allait s'accomplir alors que Dieu, au chapitre suivant, au verset 16, allait choisir une nouvelle dynastie. Et choisir un nouveau roi en la personne de David. Je ne sais pas pourquoi j'appelais ça maîtrise de soi, mais certainement il y a un lien. Mais dans le passage, on a vu l'intention de Saül, et notamment, on a souligné au verset 12 que quand Saül est revenu de la guerre, il s'est fait construire un monument. Tu sais ? Je vais célébrer ma propre victoire. Je vais célébrer mon propre orgueil, tu sais. C'est vrai que l'orgueil est un obstacle à la maîtrise de soi, et l'orgueil est aussi un obstacle à l'obéissance à Dieu. Verset 24, on a dit qu'un autre trait qui ressort de chez Saül, c'est qu'il avait peur des hommes. Et il dit à Samuel, on n'a pas tout dévoué par interdit, parce que j'avais peur du peuple, la peur des hommes. Vous savez quand Samuel était choisi comme roi, là, c'était le plus grand d'Israël, là, comme notre frère Samuel là-bas, l'apôtre Saül. Mais il se cachait derrière les bagages. Vous vous rappelez ça quand il était choisi comme roi là ? C'est un gars qui était un peu timide, qui avait un peu peur des hommes. Tu sais. Avec le temps, il s'est quand même affermi. Il a eu des victoires. l'Éternel lui a donné des victoires, mais voilà que cette fameuse peur des hommes revient. La peur des hommes qui nous empêche d'obéir pleinement à l'Éternel. Parce qu'une demi-obéissance n'est plus de l'obéissance. Et pour terminer, j'aimerais nous laisser sur cette question. Quand nous faisons face à une situation qui chaude, là, ça brûle, c'est un défi devant nous, là. Il n'y a plus d'issue, on est coincé là. Est-ce que cette situation va produire dans notre vie des ronces ou des fruits? Si je fais confiance à Dieu, comme Ézéchias, ça va produire des fruits. Si je ne fais pas confiance à Dieu, si je n'obéis pas à Dieu, ça va produire des ronces. Qu'est-ce que nous produisons dans notre vie? Est-ce que nous obéissons à Dieu? Est-ce que nous désobéissons à Dieu? Est-ce que nous produisons des fruits? Ou est-ce que nous produisons des ronces? On va prier ensemble. Seigneur, tu vois combien nous sommes très très habiles à nous justifier ou à mettre la faute sur les autres. Et Seigneur, nous voulons nous placer devant toi cet après-midi pour que tu puisses nous aider à sonder notre cœur. Sommes-nous comme Saül? Alors que dans notre vie, il y a peut-être un domaine très précis, très particulier, où nous désobéissons à Dieu. Ou peut-être nous avons déjà désobéi à Dieu dans le passé, puis nous n'avons jamais réglé cette désobéissance-là. Et nous nous justifions devant toi, peut-être aussi devant les autres. Seigneur, sonde notre cœur, pour que nous puissions discerner si nous sommes portés à t'obéir pleinement. Seigneur, toi, tu as appris l'obéissance jusqu'à la mort de la croix. Seigneur, apprends-nous l'obéissance, mais une obéissance totale. Apprends-nous à être fidèles envers toi. Apprends-nous à te faire confiance, Seigneur. Amen.